Dialogue entre Congolais présenté par Alain Héron.
Bonsoir. Élection 2011 en RDC. Près de 15 ministres du gouvernement central candidats à la députation nationale sont en campagne, laissant ainsi leur poste vacant. Seul le ministre des Affaires foncières, lui-même candidat député, assume l'intérim de plus de 10 ministres. Quelle analyse faire de cette situation? Quelles pourraient en être les conséquences sur le fonctionnement du pays? Nous recevons comme invité dans cette émission Maître Sam Moulenga, cadre du PPRD et directeur de cabinet du secrétaire général de la majorité présidentielle. Maître Moulenga, bonsoir.
Bonsoir.
Joseph Kongolo, analyste politique. Bonsoir, Monsieur Kongolo.
Bonsoir.
Maître Hubert Effolé, secrétaire général du Rassemblement Congolais pour la démocratie. Maître Effolé, bonsoir.
Bonsoir.
Et vous êtes déjà très nombreux à nous envoyer vos réactions. Jean Bosco Mafoulou, je pense que les ministres n'ont fait que respecter la loi. Un seul ministre assumait l'intérim d'une dizaine d'autres, sincèrement c'est trop. Donc la faute est à attribuer au Parlement qui a voté cette loi. Alfred Mangoy de Kinshasa, la conséquence majeure de ce dysfonctionnement est que beaucoup des dossiers non traités vont rester sur la table pour agacer les nouveaux ministres. Bienvenue à tous dans votre émission.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions en appelant au 081 890 66 78 ou nous écrire par SMS au 081 051 57 78 et par mail, écrivez-nous à dec@radiookapi.net.
Près de 15 ministres candidats députés nationaux se sont lancés en campagne, laissant ainsi leur poste vacant. Pour assurer la bonne marche du pays, le ministre des Affaires foncières, Majki Simbangoy, lui-même candidat député de la circonscription de Funa à Kinshasa, assume à lui seul l'intérim de plus de 10 ministres. Conséquence, la lourdeur administrative d'une part et le chômage déguisé dans le cabinet d'autre part. Reportage Michel Kifindangoy.
Du ministère de l'économie nationale à celui du plan en passant par ceux de la santé, de la communication et autres, le constat s'avère le même. Les travailleurs semblent ne pas être motivés. Dans certains bureaux, les agents sont carrément endormis alors qu'il n'est que 15 heures. Que font donc ces ministères dont les chefs sont en campagne? Les directeurs de cabinet du ministre de la communication s'expliquent.
Nous recevons les dossiers et nous les traitons et nous les transmettons pour signature au ministre qui fait intérim du ministre de la communication qui est absent. C'est le ministre des Affaires foncières. Et lui-même déjà fait l'intérim de 10 ministres. Et malgré ses occupations, il les traite aussitôt, nous les récupérons et nous les rendons au récipiendaire.
Cette situation occasionne d'une part la lourdeur de la machine administrative, reconnaissent certains agents de ministère, et d'autre part le chômage déguisé dans la plupart des ministères où les chefs sont en campagne. Contacté, le porte-parole du gouvernement estime que cette situation n'est pas gravissime. Lambert Mende.
C'est une situation qui va s'arrêter dans moins de 10 jours. La situation redeviendra normale.
Pour Lambert Mende, malgré la lourdeur, les choses marchent normalement, d'autant plus que les secrétariats généraux de chaque ministère continuent à exercer leurs fonctions d'administration.
Merci Michel Kifindangoy, maître Sam Moulenga, vous êtes cadre du PPRD et directeur de cabinet du secrétaire général de la majorité présidentielle. Comment vous analysez cette situation?
Merci pour la parole. La situation, c'est comme vous venez de le suivre vous-même. Elle n'est pas gravissime. Elle n'est pas gravissime dans la mesure où les ministères continuent à fonctionner normalement. Et pour que vous compreniez bien les choses, il faut comprendre d'abord comment fonctionne un ministère. Le ministre, c'est vrai, c'est lui qui est là, qui conduit la politique du gouvernement. C'est lui qui est là, qui donne les orientations par rapport à ce que le gouvernement a arrêté comme politique. Mais c'est pas le ministre qui traite les dossiers comme tel. Il est assisté des conseillers, il a des collaborateurs. Et le travail proprement dit du ministère, qui est la gestion des affaires au quotidien, et la charge des secrétariats généraux. Et comme vous savez, les secrétaires généraux sont des hauts fonctionnaires de l'administration publique. Ils sont par conséquent apolitiques et ils continuent à faire leur travail convenablement. Ils sont là et ils gèrent ce qu'ils doivent gérer. Donc la situation, elle est là, elle n'est pas gravissime, comme vous l'avez suivi tout à l'heure, et c'est une situation qui est passagère. Donc, je crois devoir affirmer que tout est en train de bien se passer. Et comme vous l'avez dit vous-même, c'est le législateur qui a voulu que la situation soit celle-là. Le législateur a toujours été prévoyant. J'estime qu'il a bien fait son travail et les choses sont celles-là.
Voilà, vous parlez des conseillers, mais on sait qu'il y a plusieurs ministères où même les conseillers sont eux-mêmes en campagne. Le Premier ministre, par exemple, lui-même est en campagne. Presque tout son cabinet est en campagne, Maître Moulinga. Tout ça est normal.
Mais vous savez, il s'agit du fonctionnement d'une institution. Il ne s'agit pas des individus. Et s'agissant du fonctionnement d'une institution, il y a des règles qui régissent ce fonctionnement. On sait que quand le DIRCAB n'est pas là, c'est le DIRCABA qui fait l'intérim. Et quand le DIRCABA n'est pas là, c'est le conseil le plus précédent. Donc il n'y a pas d'inquiétude à se faire là-dessus. Le travail ne sera pas bloqué puisqu'il y a une ou deux personnes qui ne sont pas, qui sont en train de battre campagne.
Il y a Igil Majado de Bukavu Sud Kivu qui dit « Au nom du principe de la continuité des services publics, cela ne poserait pas problème. Le comble est que, chez nous en RDC, les hommes s'identifient aux institutions qu'ils dirigent. Par ailleurs, je me demande si c'est en vertu de quel texte administratif ou légaux qu'un ministre pouvait assumer l'intérim d'une dizaine des ministères. Qui est-il vraiment pour avoir la maîtrise des dossiers de chaque ministère ?»
L'intérim, le fonctionnement du gouvernement est bien déterminé. Il y a des textes, il y a un décret qui réglemente le fonctionnement du gouvernement.
Qui autorise un ministre à assumer l'intérim de 10 autres ministères.
Bon, qui réglemente justement la question relative à l'intérim. Et l'intérim, dans le cas d'espèce, est décidé par son Excellence Monsieur le Premier ministre. Et c'est le Premier ministre qui décide que tel
lui-même en campagne.
Oui, mais je dis bien qu'il y a des règles qui régissent tout ça. Le Premier ministre lui-même décide que c'est elle qui va assumer l'intérim de tel autre ministre. Donc il n'y a pas d'inquiétude à se faire. Tout est clairement régi par des lois et on n'a qu'à s'en référer aux lois qui existent.
Vous parlez des secrétaires généraux, mais on sait que beaucoup d'observateurs parlent de la faiblesse de l'administration en RDC. Est-ce que les secrétaires généraux, qu'est-ce qu'ils font encore comme travail aujourd'hui? Ils sont dépourvus de moyens, tout est centralisé pratiquement au niveau des ministres.
Mais ça, c'est une remise en cause totale qui n'est pas censée se faire dans le cadre de ce débat. Si vous devez, à ce moment-ci, évoquer la question relative à l'incompétence de certains secrétaires généraux. Là, je vais souhaiter que vous organisiez une autre émission à l'occasion de laquelle nous pouvons aborder ce genre de questions. Pour le moment, il est tout simplement question de démontrer que l'administration est là, notamment pour seconder le ministre dans l'exercice de ses fonctions. Le ministre est là, il conçoit, il applique la politique du gouvernement et l'administration est là pour l'assister dans l'application de cette politique du gouvernement. Il n'est pas... C'est pas le moment de parler de la compétence ou de l'incompétence de certaines
administrations
publiques.
Maître Moulinga, je n'ai pas parlé de compétence ou d'incompétence, mais des conditions dans lesquelles les secrétaires généraux travaillent. Ils peuvent être très compétents, mais ils sont mal payés ou sous-payés, les bureaux ne sont pas équipés. Quel est le poids de l'administration congolaise aujourd'hui?
Mais tout ce que vous devez retenir est que cette administration existe. Justement, je reviens à ce que je disais. Ce n'est pas ici le moment de parler des conditions dans lesquelles ils travaillent. Tout ce que nous savons est que les différents ministères sont dotés des secrétariats généraux, lesquels secrétariats généraux existent, et quand vous allez au ministère de l'économie, vous allez trouver un secrétaire général qui est là, qui exécute ce que le ministre prend comme décision. Donc vous n'allez pas, en ce moment-ci, chercher à parler des conditions dans lesquelles il fonctionne. Là, je crois que ça doit faire l'objet d'un autre débat.
Maître Hubert Effolé, vous êtes secrétaire général du Rassemblement Congolais pour la Démocratie, RCD. Comment vous analysez cette situation? Maître Moulinga pense que c'est normal et que c'est passager.
Non, en principe, sur le point de vue formel, effectivement, il ne devait pas y avoir de problème. D'autant plus que nous sommes dans une période charnière, c'est-à-dire une période où le gouvernement, respectant le jeu démocratique, ne devait plus prendre de grandes décisions. Nous sommes dans une période où la majorité est fin mandat, pratiquement, donc dans cette période charnière, il ne devrait pas prendre de grandes décisions qui nécessiteraient l'intervention du ministre. Et cela se passe ainsi pratiquement dans toutes les démocraties, lorsqu'il arrive des périodes des élections, en France, en Belgique par exemple, généralement les ministres en fonction vont en campagne et ils restent en fonction jusqu'à ce que le nouveau gouvernement vient le succéder. Donc, sur le point de vue formel, ça ne devait pas poser de problème. Sur le point de vue pratique, en réalité, ça ne devrait pas non plus poser problème, parce que quand on parle de la faiblesse de l'administration, vous l'avez souligné aussi, dans cette administration, y compris les ministères, vous avez parlé du sous-équipement des administrations, mais il n'y a pas que l'administration proprement dite, c'est-à-dire les secrétaires généraux et les directeurs. Il y a aussi les cabinets des ministres qui sont sous-équipés, qui ne sont pas dotés de frais de fonctionnement comme il se devait, et parfois il y a même concentration des dossiers entre certains conseillers, entre les directeurs de cabinet. Il y a des ministères même où le directeur de cabinet lui-même est bypassé au profit d'un conseiller plus influent. Et donc c'est seulement en ce moment-là que ça commence à poser problème. Donc sur le point de vue formel, ça ne devait poser aucun problème. Si toutefois l'administration fonctionnait aussi normalement, comme vous l'avez souligné, vous avez parlé parfois de l'incapacité de secrétaires généraux d'œuvrer réellement, non seulement en cause du sous-équipement, mais aussi parce que ils sont dépouillés de toute attribution. Les ministères, les ministres et les conseillers s'accaparant de tout ce que le ministère doit faire. Et à ce moment-là, effectivement, ça pose problème. Ça pose également problème lorsque dans certains ministères, il y a effectivement un sorte de blocage où même les vice-ministres ne voient aucun dossier de sérieux. Si le ministre n'est pas là, le directeur de cabinet ne fait sortir aucun dossier sérieux. Et donc, si ce ministre-là n'est pas là, effectivement, ça bloque toute la machine. Mais si les gens travaillent correctement en respectant les prescrits de nos lois, ça ne devrait vraiment pas poser problème.
Et là, à vous comprendre, vous parlez d'expérience. Si je n'ai pas des trous de mémoire, en 2006, vous étiez vous-même candidat à ministre.
Absolument.
Donc, c'est tout à fait normal. Mais il y a Aline Riziki qui m'ongait d'ouvrir ensuite qui dit « Je pense que la situation de vacances et postes de certains ministres doit interpeller les futurs députés au complément de l'article 10 de la loi électorale qui obligera les personnes occupant des postes politiques de démissionner ou d'écrire des lettres de mise en disponibilité car leur absence au poste de travail paralyse non seulement le bon fonctionnement de l'appareil de l'État, mais occasionne aussi l'évasion des recettes de l'État, ce qui est grave dans un pays où le contrôle parlementaire n'est pas concomitant ni régulier a posteriori. » Y aurait-il, Hubert Effolé, comme a dit un auditeur que j'ai cité dans le sommaire, pourrait-on attribuer la faute au Parlement qui a voté cette loi?
Non, on ne peut pas attribuer la faute au Parlement, on ne peut même pas attribuer la faute à cette loi-là, parce qu'en réalité, il n'y a pas de faute quant à ce. J'ai dit tantôt, lorsque les hommes respectent les principes, ça ne devrait poser aucun problème. Vous avez, par exemple, en Belgique, ils ont un problème de succession du gouvernement depuis bientôt plus de 500 jours. Mais ça ne pose aucun problème. Le gouvernement en place continue, comme c'est le cas de nos ministres actuels, à prendre, c'est-à-dire à gérer les situations d'urgence. À gérer les situations d'urgence, l'administration continue à maintenir les fonctionnements de l'État. Donc, lorsqu'on respecte toutes ces règles-là, ça ne devrait poser aucun problème. Vous devez savoir que dans toutes les démocraties, il y a, à mon humble avis, et je crois à ma connaissance, aucune démocratie où les ministres en fonction sont appelés à démissionner lorsqu'ils se présentent aux élections. La fonction du ministre, c'est une fonction éminemment politique, et qui, bien assumé, ne devrait pas empêcher l'administration de fonctionner. Il y a une auditrice qui a parlé de l'évasion des recettes fiscales. À mon entendement, il n'y a aucun ministre qui procède à la liquidation des recettes fiscales. Il y a une administration qui fonctionne pour recouvrer les recettes fiscales, et que le ministre des Finances soit en campagne ou qu'il ne soit pas en campagne, ça ne devrait pas empêcher l'administration fiscale de fonctionner. Donc, le problème que nous avons aujourd'hui, c'est d'ailleurs même un problème récurrent, et ce n'est pas seulement pendant la campagne que nos ministères ont cette lourdeur administrative, c'est même quand les ministres sont là, parce que ne sont traités généralement que les dossiers qui intéressent les ministres, les dossiers qui intéressent tel ou tel autre conseiller.
Et alors, en 2006, parce que vous en avez fait l'expérience, comment ça s'est passé? N'y avait-il pas dysfonctionnement dans votre cas?
Il n'y a pas eu dysfonctionnement. Moi, j'ai eu la chance, lorsque j'étais ministre, de vraiment mettre l'administration devant ses responsabilités. Le camarade Sam qui est ici travaillait à l'époque avec moi, il était mon conseiller juridique. Il a vu comment nous avons travaillé avec l'administration. Nous avons laissé à l'administration toutes les attributions de l'administration, notamment les conseils, le contrôle économique par exemple. Lorsque je suis arrivé, j'ai dit à mon cabinet que c'est une attribution de l'administration. Le ministère n'a pas à s'occuper du contrôle économique. L'administration prépare les actes pour le contrôle économique. On m'amène pour signer, c'est le secrétaire général et le directeur qui procèdent à ces contrôles, pas le cabinet du ministre. J'ai eu quelques problèmes avec quelques collègues de SAM qui voulaient absolument que le ministère s'interfère dans ces contrôles économiques. Mais j'ai dit, ce sont des attributions de l'administration et l'administration devra s'occuper de ces attributions. Et donc, si les ministères sont menés comme cela, ça ne devrait poser aucun problème.
Joseph Kongolo, vous êtes analyste politique. Avant de vous donner la parole, nous avons reçu beaucoup de questions de nos auditeurs qui nous demandaient quelle est la disposition, que dit la loi électorale à ce sujet. Mais l'article 10, à titre pédagogique de la loi électorale, son alinéa 6, dit, je cite, sans préjudice des textes particuliers, sont inéligibles, je cite l'alinéa 6, les mandataires actifs dans les établissements publics ou entreprises publiques ne justifiant pas à la date limite du dépôt des candidatures, du dépôt de leur lettre de démission. Donc, les ministres ne sont pas concernés par cet alinéa. Joseph Kongolo, quelle est votre analyse?
Bien, avant d'arriver à cette question, je voudrais dire que du point de vue de la coupure externe entre l'État et la société, je crois que l'élection, c'est un pont qui fait passer les membres de la société, n'est-ce pas, vers la société politique. Et de ce point de vue, il naît un problème d'ordre moral de voir quelqu'un qui exerce le pouvoir, en même temps être un candidat. Voyez-vous? Alors, en ce moment-là, il se pose maintenant un problème. L'élection, c'est un pont qui choisit, qui sélectionne les gens pour pouvoir exercer l'autorité de l'État. Alors, si en ce moment-là, ce sont les mêmes gens qui sont au pouvoir et en même temps qui sont candidats, ça devient malaisé du point de vue moral d'être à la fois candidat et à la fois gouvernant. Voyez-vous? Donc cet élément moral, je crois que c'est ce qui crée un peu une sorte de critique générale dans la société concernant particulièrement cette situation.
Donc être un peu jugé parti à la fin.
En quelque sorte, jugé parti, c'est peut-être trop fort, mais parce que pour être ministre, on ne passe pas par l'élection, bien sûr. Mais ce qui est vrai, c'est que quand on est dans les structures du pouvoir, pendant qu'il y a l'élection qui fait passer quelqu'un de la société vers la société politique, c'est-à-dire vers le pouvoir, en ce moment-là, ça devient malaisé du point moral, du point de vue tout à fait moral, n'est-ce pas, d'être à la fois dans le pouvoir et à la fois aussi être candidat, n'est-ce pas, pour accéder au même statut de pouvoir. Alors, de ce point de vue-là, moralement parlant, n'est-ce pas, ça frise, n'est-ce pas, ça frise un tout petit peu et la société crie, parle, ainsi de suite et tout ça. Mais, comme Maître l'a dit tout à l'heure,
Maître Follet,
voilà, il a dit tout à l'heure, sur le plan formel, je crois qu'on ne peut pas laisser un vide. Mais le vide, il y a un vide de pouvoir, pas un vide politique, attention, mais je parle d'un vide du pouvoir. Quand les titulaires, n'est-ce pas, des ministères sont absents, or, nous savons que dans les systèmes politiques africains particulièrement, les ministres, ils phagocytent le titre, ils phagocytent le poste, c'est-à-dire tout s'identifie au ministre, à l'individu. Et quand il est absent, vous sentez, c'est ce que Maître Follet vient de relever tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on sent qu'il y a un vide. Il y a un vide qui se crée, et c'est ce que moi j'appelle un vide du pouvoir, n'est-ce pas, circonstanciel bien sûr. Alors en ce moment-là, dans nos sociétés, voyant d'ailleurs les problèmes qu'on a épinglés tout à l'heure de nos administrations qui sont sous-équipées, donc vous sentez qu'il y a une sorte de vide de pouvoir, vide, qui se manifeste par tout ce qu'on a dit tout à l'heure, la lenteur dans le traitement des dossiers, et tout ça dans les élections, certaines tâches, tout ça. Mais, par principe de pérennisation, n'est-ce pas, des structures du pouvoir, de l'État, n'est-ce pas, il y a quand même l'administration qui peut arriver à faire ça. Ça, c'est sous le plan tout à fait formel. Mais, dans la réalité, c'est vide de pouvoir, là, se manifeste. Ça se manifeste. Et sur le plan, du point de vue moral, nous le disons bien, c'est très malaisé. Je crois que sur le plan moral, il serait préférable, pour nous qui apprenons la démocratie aujourd'hui, pas comparativement, n'est-ce pas, des vieilles démocraties, il serait préférable, n'est-ce pas, que le législateur puisse réglementer ce genre de situation et de démissionner carrément. Enfin, je ne vois pas pourquoi ça va gêner qui. Je crois que ça va nous apprendre à nous, sur le plan tout à fait pédagogique, n'est-ce pas, à pouvoir nous donner des bonnes leçons pour accroître notre démocratie qui est naissante. Mais là,
allez-y, je vous en prie.
Pour revenir à la question de l'auditeur de tout à l'heure, c'est vrai que malheureusement, c'est un article qui n'a pas été respecté parce que il y a certains mandataires, n'est-ce pas, qui sont candidats, mais malheureusement, qui n'ont pas déposé leur démission ou de mise en disponibilité et tout ça. C'est vrai, nous sommes en train de marcher cas à cas, n'est-ce pas, sur certaines, le respect de certaines réglementations. Je pense que nous sommes déjà enfin presque fin campagne. Je crois que ça risque de ne pas être à l'ordre du jour, mais je crois qu'à la longue, n'est-ce pas, il faudra que les textes qui sont votés, particulièrement la loi électorale, soient respectés à la lettre. Je crois que ça, c'est de l'élégance et de l'élévation aussi.
Deux auditeurs pour vous, Joseph Kongolo, Gérard Kazingoufou de Bénion-Orkivu. L'absence de ces 15 ministres dans leurs bureaux respectifs au profit de leur campagne n'aura pas d'impact car leur présence a toujours été comparable à une absence. Godefroy Mumba de Bukavu Sud-Kivu, le fait que tous ces ministres abandonnent leur poste n'apporte rien de nouveau dans la vie du Congolais, même quand ils sont présents à leur poste, le salaire arrive toujours avec retard d'un ou de plusieurs mois. À titre d'exemple, le salaire du mois d'octobre n'est toujours pas perçu à la date d'aujourd'hui ici à Bukavu.
Donc, ce qu'il faut dire, c'est que notre pays est dans un contexte particulier. Nous venons de conflit. C'est un pays post-conflit. Ce qui est vrai, dire que être là n'est pas être là, c'est, ça revient au même. Je crois que c'est un peu trop fort. Mais ce qui est vrai, c'est que ce sont des situations de fragilisation de l'autorité de l'autorité de l'État. Et ce sont des moments qui sont en principe très difficiles où l'ensemble des structures du pouvoir doivent se mettre ensemble pour sécuriser le processus, sécuriser les populations, sécuriser les biens des personnes, ainsi de suite et tout ça. C'est un moment où l'autorité doit se renforcer, mais avec la situation présente, n'est-ce pas, des ministres en fonction qui sont en campagne, qui ont déserté pratiquement leur ministère, ce sont des moments de fragilisation de l'autorité de l'État et je crois que on doit trouver d'autres mécanismes pour renforcer, n'est-ce pas, l'autorité de l'État pendant ce temps qui sont un peu ivres, quoi, un peu durs, hein, dans ce sens-là.
Rendons-nous à Mbujimayi au Kasai-Oriental où on note également un dysfonctionnement d'activité à la fonction publique, un phénomène constaté depuis le début de la campagne électorale. Plusieurs bureaux de l'État ne sont ouverts qu'à peine et pour cause, l'ensemble des fonctionnaires battent campagne. Une situation qui inquiète les personnes ayant sollicité un service étatique. Nikei Mputu a fait un tour dans ses bureaux.
Dans les couloirs des bureaux de l'État, c'est un silence des morts. Certaines personnes diraient même que l'appareil administratif du Kasai Oriental est en panne. Du gouvernorat de province à l'hôtel de gouvernement en passant par le bâtiment administratif de la fonction publique, c'est presque désert. Fatigué des va-et-vient effectués avec les fardes des dossiers en main, certaines personnes qui sollicitaient un service n'ont pas manqué de réagir.
Surtout moi qui vous parle, j'ai un dossier qui devrait être approuvé par l'État. Tous les agents sont versés dans les activités de la campagne.
À la fonction publique, le chef de division est sincère. La plupart de ses fonctionnaires sont en campagne. Il affirme avoir reçu et autorisé leur mise en disponibilité.
Il y a quelques-uns qui ont postulé. J'ai écrit officiellement pour qu'ils puissent cesser leurs fonctions, qu'ils aillent battre leur campagne parce qu'ils ont fait la mise en disponibilité.
À l'hôtel du gouvernement, seuls 2 ministres sur 10 restent quelque temps au cabinet depuis bientôt 3 semaines. Devant les bureaux, certains ont même mentionné, je cite, « pour tout contact, prière de le joindre par téléphone », fin de citation. Mbujimayi, Nikei Mputu, Radio Okapi.
Merci Nikei Mputu. Maître Sam Moulenga, quel commentaire vous pouvez faire sur cet élément que nous venons de suivre?
Bon, le commentaire est simple. Vous savez, il y a une confusion qui est entretenue dans la tête des gens. Il y a ce qu'il faut savoir reprocher à la loi et il y a des aspects qu'il faut peut-être savoir reprocher à ceux qui se portent candidats.
Des aspects pratiques.
Bon, pratique, ce n'est peut-être pas le cas de le dire. C'est-à-dire, on impute à la loi ce qui ne convient pas d'imputer à la loi. Si, par exemple, il se fait que on a besoin que de 500 députés nationaux, à 2 jours de la clôture du dépôt de candidature, on n'avait même pas enregistré 500 candidats. Il a fallu qu'on prolonge de quelques jours pour pouvoir enregistrer les 18 000 ou, je sais pas, 19 000 qui ont été enregistrés. Oui, ça, on ne peut pas dire que c'est la faute de la loi. Il faut, je crois, un travail au niveau de la mentalité du Congolais qui croit peut-être qu'il faut se lancer dans la politique pour gagner un peu d'argent, qui croit peut-être qu'il faut se faire politicien pour ou se faire candidat pour se faire connaître. Il faut qu'on sache que la politique doit être réservée aux politiciens et que chacun sache valoriser le travail qu'il fait. Ça, c'est un travail qui doit être fait au niveau de la population. Si tout le monde a tendance à se porter candidat, moi, je crois que c'est pas la faute à la loi. Tout à l'heure, il y a le camarade à mes côtés qui parlait...
Joseph Kongolo.
Joseph Kongolo, oui, voilà. Qui est un ami, voilà, il était ensemble à l'université. Évidemment, il était en sciences sociales, lui, pendant que nous étions en droit. Il fait savoir que il y a un problème de morale. Il n'y a pas de morale possible à prêcher à la population, à ce point de vue. La loi est là, elle est claire. C'est un problème législatif, un problème des textes. Il n'y a pas de problème de morale à envisager à ce niveau. Il a, en dehors de ça, parlé du vide. Mais il y a Maître Effolé qui a bien présenté les choses. Même dans d'autres démocraties, on ne peut pas envisager un vide puisqu'il s'agit du fonctionnement des institutions. Et les institutions sont régies notamment par le principe de la continuité. Un individu n'est pas là, il est remplacé, il y a des règles qui prévoient le mode de remplacement, le mode de fonctionnement. Et la machine ne doit pas être bloquée puisqu'un individu n'est pas là. Et qu'on soit en train de faire l'apologie de la personnalisation du pouvoir, que... Il y a des ministres qui sont là, et le ministère ne fonctionne que puisque c'est tel qui est à tel ministère. Ça, ce sont des pratiques que nous devons décourager. Ce ne sont pas justement des pratiques que nous devons encourager. Donc, nous devons considérer que ce n'est qu'une situation passagère, on l'a dit, elle est passagère, et même si elle est passagère, elle est bien régie par des textes qui sont clairs, et les textes sont là, et ils ont tout prévu. On n'a pas d'inquiétude possible à se faire à ce sujet.
Prenons cette réaction qui nous vient de Mbandaka à l'Équateur pour vous, Maître Sam Moulin.
Chef de travaux Jean-Bernard Mibeko, Mbandaka, province de l'Équateur. C'est une situation déplorable. Le ministre des Affaires foncières assure l'intérim de plusieurs ministres en campagne électorale à l'intérieur du pays, alors que lui-même est en campagne à Kinshasa. En principe, ces ministres devaient démissionner. Comment un ministre candidat peut-il traiter un dossier qui est en faveur de son concurrent sur terrain? Selon le bon sens, on ne peut pas être à la fois ministre et candidat. Les ministres candidats, dans l'exercice de leurs fonctions, ne vont privilégier qui fait qu'il leur rapporte un gain sur le plan électoral au détriment de toute autre considération.
Voilà, il revient un peu sur le problème d'ordre moral dont a parlé Joseph Kongolo, mais il y a un élément assez intéressant, Maître Moulinga. Comment un ministre candidat peut-il traiter un dossier qui est en faveur de son concurrent?
Le ministre est là, il agit en tant que ministre, il est investi des pouvoirs publics. Il a des prérogatives qui font de lui un homme un peu au-dessus de tout être humain et du fait qu'il est investi de certains pouvoirs. Donc, dire qu'un ministre ne peut pas traiter le dossier d'un... Je ne sais pas comment on envisage cette concurrence-là, puisque la concurrence ne doit pas être envisagée seulement par rapport aux enjeux électoraux. La concurrence, on peut l'envisager même par rapport à la vie de tous les jours. Donc, là, c'est chercher si nous devons pousser. On va aller loin avec ce genre de raisonnement. On va nous demander finalement de n'avoir aucun ministre dans le pays. Puisque chacun a au moins quelqu'un qui doit être son concurrent sur un plan donné. Ça, c'est un raisonnement absurde. Et je suis vraiment désolé de constater qu'un raisonnement comme ça émane de quelqu'un qui se dit chef des travaux.
Mais malheureusement, il ne faut pas oublier que nous sommes en Afrique, a rappelé Joseph Kongolo.
Nous sommes en Afrique, c'est pourquoi les lois existent. Et les lois sont là pour déterminer les règles du jeu. Les lois sont là pour fixer le cadre. Et dans la mesure où on est en train d'agir par rapport au cadre qui est tracé, lequel cadre unit tout le monde, je crois qu'on est dans le bon. C'est ça même le bien fondé de la loi.
Maître Hubert Effolé, à Kinshasa, le gouvernement central en campagne. En province, nous avons vu le cas du Kasaï oriental également dysfonctionnement. Quel est votre commentaire également?
C'est lié à la vie démocratique. La vie démocratique est interrompue par des cycles des élections et il se fait que ceux qui nous ont précédés sur cette voie-là l'ont fait ainsi, et donc nous continuons à faire ce que les autres ont fait. Et le chef des travaux a dit tout à l'heure qu'en principe, un ministre en campagne de démissionner, je lui dis que non, en principe, ce n'est pas ça, parce que les principes sont établis par nos lois. En principe, un ministre en campagne ne démissionne pas. L'ami congolois a parlé plutôt des considérations d'ordre moral. Mais il faut savoir de quelle morale parle-t-on, parce que dans la morale que je qualifierais de morale démocratique, cela est permis. Cela est d'autant permis que la vie démocratique est donc régie par ces lois-là que nous sommes tenus de respecter. Et lorsque, pour rencontrer les inquiétudes de notre ami ici, et qui a même semblé sous-tendre cette question d'ordre moral, l'on suppose qu'un ministre en campagne électorale ne peut pas bien traiter le dossier d'un de ses adversaires, il faut se rappeler que l'adversité politique n'a pas pour champ seulement les élections. L'adversité politique, c'est toute la vie politique. Vous avez des uns qui sont au pouvoir, des autres qui sont à l'opposition, et donc qui sont adversaires. Seulement, le ministre doit traiter les dossiers par rapport à la loi. C'est ainsi qu'il y a des recours devant les juges administratifs et parfois même devant les juges civils. Il y a des citoyens qui, connaissant leurs droits, poursuivre des ministres qui n'ont pas bien traité leur dossier. Moi, je suis également avocat, donc j'ai souvent vu des procès comme ça où quelqu'un poursuit un ministre qui a négligé le traitement de son dossier, qui l'a maltraité simplement parce que ils avaient un conflit. Non pas seulement un conflit politique, mais parfois il peut s'agir de questions de société. Un ministre qui est actionnaire dans une société telle autre et qui essaye d'avantager sa société. Il y a même des rivalités trivial, c'est-à-dire de la vie de tous les jours, tel a pris la femme de tel autre, tel a pris le mari de tel autre, tel ne veut pas entendre parler du fiancé ou de la fiancée de son fils, et il y a ce genre de rivalité, mais il y a des lois qui font que lorsqu'un ministre ne traite pas bien le dossier de quelqu'un, il est poursuivable. Par ailleurs, je l'ai dit au commencement de cette émission, par ces temps-ci, les ministres ne devraient pas prendre de grandes décisions politique. Donc c'est une période charnière où en principe les ministres n'ont vraiment pas de décisions importantes à prendre parce qu'ils sont fin mandat. Il faut se rappeler que dans ce qui se passe dans un ministère, la part du politique n'est pas plus de 10%. 90% des traitements de dossiers de ministères sont du ressort de l'administratif et ça ne devrait pas souffrir en principe de la présence de ministre.
Donc si je vous comprends, cela n'a évidemment aucune conséquence sur le fonctionnement du pays.
En principe, d'abord, comme j'ai dit tantôt, nous sommes dans une période charnière. Les grandes décisions ne doivent pas être prises. Donc les grandes décisions, ce qui nécessite l'implication du gouvernement dans sa forme constitutionnelle, c'est-à-dire conseil des ministres, encore que le gouvernement sortant ne nous a pas habitués à des conseils des ministres réguliers. Donc, il n'y a pas de grandes décisions à prendre actuellement. Et deuxièmement, la plus grande partie des traitements de dossiers au niveau des ministres, ce sont des matières administratives qui devraient se faire par l'administration. Les ministres n'est là généralement que pour une sanction. Et lorsque l'on respecte la loi, il ne s'agit que de mettre une signature, comme je l'ai fait moi-même, pour le contrôle économique. Donc, ça ne devrait pas, en principe, souffrir de l'absence de ministres si, effectivement, il n'y avait pas ces ministres qui phagocytent les appareils ministériels, s'il n'y avait pas ce que moi j'appelle les monarchocentrismes, c'est-à-dire qu'il y a quand même certains d'entre nous qui ont, par cette inconscience-là, de ne travailler que lorsque le chef est là. Ce n'est pas seulement les ministres. Il y a à l'université ou à l'école, lorsque le maître n'est pas là, tout le monde se promène. Et l'adage, quand le chat n'est pas là, les souris dansent.
Joseph Kongolo, vous intervenez après cette réaction qui nous vient de Lubumbashi au Katanga, pour vous.
Professeur Victor Okombe de Lubumbashi au Katanga, cette situation ne me surprend personnellement pas et je ne vois pas comment il allait en être autrement. Dans un pays où tout est centralisé par le pouvoir politique et dans lequel la démocratie est presque inexistante, il faut redouter d'importants dysfonctionnements de l'État parce que, quoi que disent les défenseurs de la question, 15 jours de dysfonctionnement c'est énorme en termes de pertes pour une nation qui déclare vouloir se remettre au travail. J'espère que ça va me servir de leçon pour les prochains élections, parce qu'à mon humble avis, c'est une situation qu'il faudrait corriger.
Quelles conséquences, Joseph Kongolo?
Conséquences il y a, parce qu'il n'y a pas longtemps, la société se plaignait du fait que l'essentiel du travail administratif a été transféré par les conseils des cabinets ministériels. Je sais que c'est une critique qui a été formulée à un certain moment par les usagers, L'essentiel des matières, n'est-ce pas, de l'administration a été pratiquement transféré au niveau des cabinets ministériels. Alors, si tel est le cas, je crois que pour répondre aussi à l'intervenant tout à l'heure, si tel est le cas, c'est qu'il y a effectivement un dysfonctionnement. Il y a un dysfonctionnement, si tel est le cas. Et nous savons dans notre pays, nous sommes Congolais, je sais que les deux maîtres, ils ont plus parlé en principe, en fonction de la loi. Mais est-ce que la loi est respectée? Nous savons ce qui s'est fait dans les ministères. Si lui, c'était une exception quand il était candidat et en même temps au pouvoir, c'était une exception, mais nous savons qu'en dans la majorité des cas, l'essentiel des matières sont traitées par les cabinets et, enfin, du moins les grandes décisions sont prises par les cabinets pendant que l'administration fait juste un travail de routine. Ça, nous le savons. Alors, en ce moment-là, si tel est le cas, alors vous comprenez que 15 ministres absents et ou un seul ministre qui assume l'intérim de 10 ministères, vous comprenez effectivement qu'il y a fragilisation, n'est-ce pas, de l'action du gouvernement. Là, c'est tout à fait correct, malgré que c'est une situation passagère où pratiquement les grandes décisions ne peuvent pas être prises, mais les dossiers doivent être traités et l'administration doit fonctionner. Donc, ça c'est aussi une chose. Mais je voudrais revenir sur ce que Maître Effolé disait tout à l'heure. Je crois qu'il y a une morale, même en politique. En politique, il y a une morale, comme il a dit, en démocratie, il y a une morale, et dans plusieurs autres secteurs, il y a toujours une morale. Sous d'autres cieux, parce que ils ont fait référence à la Belgique et à d'autres à des vieilles civilisations démocratiques. Vous savez, quand un ministre fait quelque chose qui frise la morale publique, même si ce n'est pas codifié par la loi, il démissionne. Qui l'a poussé à démissionner? C'est-à-dire, il y a une sorte de morale qui n'est pas codifiée, n'est-ce pas, qui gère parfois certaines choses, certaines agglomérations ou certaines administrations, certaines structures qui fonctionnent. Et je crois qu'en fonction de cela, il y a lieu, n'est-ce pas, de prendre le devant et d'essayer de laisser un peu certains espaces, quelque chose comme ça. Il y a un autre danger, n'est-ce pas, d'être en même temps candidat et tout ça. Je crois que ça a été dit. Il y a des ministres qui utilisent les biens de l'État à des fins électorales. Nous les avons vus. Moi, je les ai vus. Ici, à Kinshasa particulièrement. Avec des véhicules de fonction et qui courent des avenues pour aller faire la campagne. Donc tout ça, ce sont des dangers qu'il y a. Et pour éviter ce genre de danger, c'est déjà un frein de la loi. Parce que les deux maîtres aiment bien le principe, la loi et tout ça. Je crois qu'ils ont un frein aussi, la loi. Donc le danger, c'est ce danger-là que nous voulons éviter, n'est-ce pas, en souhaitant, n'est-ce pas, que celui qui veut postuler, n'est-ce pas, puisse déposer carrément. Je crois que, sous le plan de loi, ça dépend de l'individu lui-même.
Alors, tout à l'heure, vous disiez qu'il fallait renforcer l'autorité de l'État, voir comment revoir cette disposition. Donc, la future Assemblée nationale, pour vous, devrait revoir cette disposition.
Oui, ça c'est mon point de vue. Je crois que c'est normal, n'est-ce pas, qu'au début, un pays dont la démocratie est naissante, tout n'est pas parfait, tout n'est pas bien fait. Je crois que c'est au fur et à mesure, n'est-ce pas, qu'on passe les législatures, qu'on doit corriger certaines choses. Je pense que sous le plan même pédagogique, il y a lieu, n'est-ce pas, que notre démocratie se démarque, n'est-ce pas, de toute cette d'autres démocraties, n'est-ce pas, sous le plan tout à fait pédagogique, à pouvoir renforcer l'autorité pendant ce temps, plutôt que de laisser une autorité lâche, quoi.
Donc, voilà, il nous reste moins de 4 minutes pour terminer l'émission. Maître Moulenga, faut-il revoir cette disposition?
Revoir la disposition, je ne crois pas. Parce que je vais juste peut-être demander à mon ami congolo de faire une petite réflexion. Comme les Congolais aiment bien tous se porter candidat, à supposer que dans une administration, par exemple, tout le monde soit tenté de se présenter comme candidat à une élection. Élection présidentielle, à l'élection de député national, tout ça. Vous voyez que il y aura ce vide qu'il est en train de craindre, justement. Il faut se faire, effectivement, que tout le monde soit tenté de se porter candidat. Il y aura ce vide qu'il est en train de redouter. La situation est bien réglée par la loi. Il n'a pas se casser la tête. La situation est bien réglée par la loi. La loi a trouvé que il y a des situations qu'il fallait considérer comme étant des cas d'incompatibilité.
Mais qui doit être soutenu par le fonctionnement d'une bonne administration.
Oui, le fonctionnement est là, le fonctionnement est là. Je crois qu'il faudrait peut-être qu'il y ait un autre débat sur la manière dont fonctionne un gouvernement. Un gouvernement fonctionne par rapport à un programme, c'est ce que les gens ne savent pas. Lorsque un ministre prend ses fonctions, La première des choses, il voit les attributions qui régissent son ministère, il voit les textes qui régissent ses relations avec les autres ministres, ses relations avec les autres institutions, les attributions de son ministère, et à la première réunion qui se tient, il est question de définir la politique du gouvernement.
Donc,
sont là les boussoles qui conduisent. C'est comme un pilote quand il est dans un avion. Il peut bien programmer et même se déplacer.
Son décollage et son atterrissage.
Voilà.
Maître Moulenga, en un mot, en guise de conclusion, donc pour vous, il n'y a pas le feu. Il ne faut pas s'agiter.
Il n'y a pas à s'agiter. La loi est là, il est très clair. C'est question de s'efforcer à appliquer la loi. Et heureusement que la loi prévoit des sanctions. Je me rappelle qu'en 2006, comme vous l'a dit tout à l'heure Maître Follet, que j'ai l'honneur de saluer, qui a été mon ministre en 2006, je me rappelle que quand il battait campagne, il prenait soin de prendre son véhicule privé.
Merci. Maître Effolé, faut-il revoir cette disposition ou renforcer plutôt le respect de la loi?
Non, je ne pense pas. Moi, je ne suis pas d'avis qu'il faille ramener notre démocratie à une démocratie au rabais. Nous sommes en train d'aspirer à l'excellence, à la démocratie d'excellence. Ce qu'il faut maintenant, c'est plutôt de renforcer les administrations pour que les administrations récupèrent réellement leurs prérogatives et puissent travailler, même si les ministres ne sont pas là, si c'est faisable. Et en ce qui concerne l'utilisation des véhicules de l'État, il y a une loi, la loi électorale, qui interdit cela et qui prévoit même la peine, c'est-à-dire la radiation de la candidature.
Malheureusement, finalement, pas respectée.
Finalement, quand je parlais de morale, ça ne veut pas dire qu'en politique, il n'y a pas de morale. Je dis la morale démocratique telle que voulue par nos lois et règlements permet à ce que ces choses-là soient telles qu'elles.
Joseph Kongolo, conclusion.
Oui, les avocats parlent en fonction de la loi. Nous voulons précéder la loi pour créer de nouvelles pratiques politiques. Je pense que de ce point de vue, nous ne serons jamais d'accord avec les juristes. Donc nous faisons précéder les faits. Nous croyons, n'est-ce pas, que pour notre démocratie, il faut que certaines choses soient corrigées, n'est-ce pas, particulièrement dans tout ce qui environne les élections.
Merci, monsieur, d'avoir participé à cette émission. Dialogue entre Congolais, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous rappelle que si vous avez aimé cette émission, vous voulez la réécouter, vous pouvez la retrouver sur radiocapi.net ou la réécouter en rediffusion à 4h15 de Kinshasa. Au revoir, restez branchés sur la radio de la paix.